Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec à la coordination Corinne Amar, à la réalisation Vincent Abouchard, à la prise de son ce matin Cédric Chatelus. Le réveil culturel tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Bonjour tout le monde, vous pouvez nous écouter quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. La ZAD, c'est plus grand que nous, c'est le titre de la bande dessinée d'aujourd'hui, sélectionnée par nos soins aujourd'hui. Les deux auteurs, Thomas Azuelos qui nous vient de Marseille et Simon Rochepeau qui nous vient de Bretagne, mais d'où ?
De Rennes.
De Rennes sont avec nous, merci d'être venu. La bande dessinée donc est éditée chez Futuropolis et on peut dire que c'est une bande dessinée en immersion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Le réveil culturel, vendredi, bande dessinée.
Alors résumons l'affaire pour ceux qui vont nous écouter dans quelques années. En 2000, l'ancien projet d'aéroport du Grand Ouest Est est réactivé dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Mobilisation, médiatisation de ce projet, controversé. En 2009, après tous les recours, le rapport de force entre les habitants et les forces de l'ordre s'intensifie et, comme autrefois avec le Larzac, Notre-Dame-des-Landes devient comme une terre promise pour des centaines de jeunes gens de la France entière, issus des luttes politiques écologiques ou anti-autoritaires, ou à la recherche de modes de vie alternatifs. Et ces militants commencent à venir s'installer sur la zone promise aux grands travaux. Et le 16 octobre 2012, le gouvernement socialiste, le gouvernement héros, lance l'opération César, qui a pour but d'évacuer par la force Notre-Dame-des-Landes et d'en chasser les occupants qui s'opposent au projet de construction de l'aéroport. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de résistances et enfin, le 17 janvier 2018, le projet est officiellement abandonné. Entre ces deux dates, les zadistes ont résisté, ont inventé de nouvelles formes de solidarité, souvent avec l'aide des paysans restés sur place. Et la bande dessinée de Thomas Azuelos et de Simon Rochepeau, éditée par Futuropolis, La ZAD, c'est plus grand que nous, est entièrement consacrée à ce combat des zadistes. Alors tout est documenté, mais aucun personnage de la bande dessinée n'est réel, dans le sens où vous avez décidé de passer par la fiction pour raconter ce que vous avez vu, parce que vous êtes allé sur place.
Oui, on est tous les deux.
Simon Rochepeau.
Oui. D'abord, moi, à partir de 2015, et j'ai passé plusieurs moments, plusieurs journées, deux jours, trois jours par-ci par-là, mais sur une période assez longue d'un an, parce que je suivais en fait un collectif qui commençait à s'installer pour faire une conserverie sur la ZAD, et donc qui complétait aussi tout ce qui existe déjà sur la ZAD, pour faire des bocaux, pour collecter les légumes, les mettre en conserve et les redistribuer au moment où il n'y a plus de légumes dans les jardins.
Et là, vous flairez le bon coup pour faire une bande dessinée, ou vous y allez en tant que militant complètement convaincu par la cause ?
Pas du tout, pas complètement convaincu par la cause, mais une cause qui me pose beaucoup de questions en fait. J'y vais pour observer le quotidien de ces gens-là, c'est-à-dire que j'ai aucune idée de la façon dont eux-mêmes vivent sur la zone, étant donné qu'on leur... Je pensais que par exemple qu'ils n'avaient pas du tout d'électricité, je ne savais pas comment ils se nourrissaient, comment ils se logeaient tout simplement, comment ils construisaient leurs habitats.
Et comment ils vivaient entre deux moments médiatiques, entre deux affrontements.
Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font entre deux moments médiatiques ? Quelle est leur vue en fait, sachant qu'effectivement il y a toujours cette urgence chez eux de ne jamais savoir quand est-ce que la police va venir les déloger, ne jamais avoir une longue vision quoi. Donc c'est vraiment dans ces moments-là que je suis allé les voir. Et je suis rapidement tombé sur une personne qui avait envie de... Bon, qui est Chloé, du coup, dans le livre, enfin, le personnage très inspiré de Chloé. Et cette personne avait très envie de me raconter son expérience. Après, donc j'ai collecté beaucoup de témoignages, mais j'ai pas vécu l'expérience physiquement. Et au moment où j'ai proposé le scénario à Thomas et qu'on est allé tous les deux sur la ZAD, je me souviens d'une remarque de Thomas qui me dit « Moi, il faut que je vive ça physiquement, quoi. Faut que j'y aille et je voudrais ressentir dans le corps ce que ça fait de vivre sur la ZAD, quoi. »
Et du coup, Thomas Azuelos, vous y allez quand avec Simon Rochepeau ?
On y est allé une première fois ensemble quelques jours. C'était
l'été.
Tout début du projet,
c'était l'été,
printemps ou été, ouais. Et en fait, moi, il m'a fallu un moment pour réaliser que vraiment, il me manquait un vécu fort, et d'autant que plus j'avançais dans le sujet, plus le sujet me touchait. Et donc, j'y ai passé plusieurs semaines à l'automne, et puis j'y suis retourné à l'hiver, enfin, quelques semaines par-ci, par-là.
En vivant avec les zadistes.
Oui, le but n'était pas du tout de dessiner, le but était de passer mon quotidien avec... Avec des gens, de tisser des relations avec eux, de faire les chantiers avec eux, de vraiment ressentir ce quotidien.
Mais une fois de plus, Thomas Azuelos, pour la même question, vous y allez pour essayer de vivre une expérience avec comme idée d'en rendre compte dans une bande dessinée, ou vous y allez aussi parce que vous êtes sympathisant de la cause et que vous voulez vivre cet événement?
Là, très clairement, c'est les deux. À la différence près que au moment où j'y vais, moi, ça se passe en 2017. Et en fait, on raconte des événements qui se passent quand même plus précisément en 2013. C'est-à-dire au début, au moment où la ZAD se constitue en tant que la ZAD qu'on va connaître pendant les cinq années entre 2013 et 2018. Donc j'ai quand même un temps de retard par rapport aux événements, c'est-à-dire que je n'ai pas vécu directement les événements de 2013, par contre j'ai vécu un petit peu ceux de 2018, des expulsions de 2018, qui m'ont donné clairement un aperçu de la brutalité et l'accélération des événements au moment où d'un seul coup l'État décide de frapper fort, tout change et toute la ZAD se reconfigure entièrement autour de la résistance, ça c'est... Mais... Dans l'idée, quand même, précisément avec Simon, on voulait raconter un moment qui nous intéresse particulièrement. C'est le moment où, début 2013, les gendarmes se retirent. La fin de l'opération de gendarmerie est terminée. Et une fois que les gendarmes sont partis, les zadistes, pris au sens large, c'est-à-dire y compris les paysans historiques, se retrouvent entre eux et doivent s'apprivoiser en dehors de l'opposition à un ennemi. Et donc doivent s'apprivoiser, doivent inventer leur mode de relation. Voilà comment on vit ensemble quand il n'y a plus de police, de justice et d'État, et sur quoi se construisent les communs et la gestion des communs, puisque c'est ce qui est quand même ce qui est au centre des préoccupations de la ZAD. C'est la gestion du commun. Et donc tous ces frottements, tout ce vivre ensemble, qui sont en amont même de la question politique, puisque c'est vraiment une question de vivre ensemble, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est ça que je voulais raconter. Y compris aussi dans les tensions, y compris mais comment ils arrivent à dépasser et transcender toutes ces tensions-là.
Bien sûr, cette bande dessinée, on voit bien que ça a été documenté, mais est-ce que tous les personnages qui avancent plutôt comme des personnages de fiction renvoient à des personnages que vous avez connus, côtoyés? Et pourquoi d'ailleurs ne pas avoir opté pour la bande dessinée de témoignage ou la bande dessinée reportage?
Nous, on a envie de, quelque part, en tant qu'auteur, on a envie de pouvoir jouer avec les personnages. Et eux, d'autre part, n'ont pas envie, tiennent aussi à leur anonymat. Donc, il était hors de question, par exemple, de les nommer par leur vrai nom. Donc, on a pris, par exemple, pour faire un seul personnage, on a pris plusieurs qui sont, on va dire, assez typiques de certains personnages sur la zone. On a pris comme ça quelques caractères pour former une trame, en fait. Et notre souci, nous, c'est vraiment de raconter une histoire. C'est qu'elle soit intéressante, c'est qu'il y ait une dramaturgie dedans, donc on se permet de rassembler les histoires, de les condenser. Par contre, tous les événements qu'on raconte dans le livre sont vrais.
Et tous les paysages sont réels, du coup, parce que c'est très important la place que vous donnez à la nature, au paysage, Thomas Azuelos, dans la ZAD, c'est plus grand que nous.
Oui, tout à fait, les paysages sont vrais. Je tenais à ce que les chapitres soient systématiquement introduits par un animal
ouais.
Aussi... Parce que il donne un autre point de vue, c'est-à-dire il s'agit aussi du rapport entre un groupe et le territoire sur lequel il s'ancre, et que ça c'est une des données fondamentales, c'est que c'est aussi des gens souvent très jeunes au départ qui se sont rassemblés et qui ont décidé de vivre ensemble et de s'ancrer sur un territoire. Donc il fallait que le territoire évidemment ait son importance. Et pour parler de la question de la fiction. Il y avait aussi quelque chose de plus, c'est que je voulais que non seulement les personnages de fiction concentrent plusieurs figures réelles concentrent plusieurs figures, mais que aussi on puisse parler de l'imaginaire de la ZAD. Et l'imaginaire de la ZAD, c'est quelque chose de très important aussi bien pour les pour les habitants de la ZAD eux-mêmes, qui se construisent leur propre imaginaire, un imaginaire qui est lié à la lutte, qui est lié à toute une série d'enjeux. Et c'est un imaginaire qui est aussi très important pour le monde extérieur, parce que ça a été un signe, ou c'est toujours un signe d'espoir pour beaucoup de gens, pour des raisons directement politiques ou juste parce que les gens sont sympathisants. En tout cas, l'imaginaire produit par la ZAD est quelque chose de très important. Donc pour traiter cet imaginaire-là, il fallait pouvoir utiliser des personnages qui soient des personnages de fiction. C'était quand même beaucoup plus évident.
Et puis trouver aussi le moteur dramaturgique, Simon de Rochepot.
Non, c'est au niveau du paysage, justement, c'est quelque chose qui est très frappant quand on va sur place. C'est que le paysage n'a pas, de fait, bougé depuis 40 ans. Et c'est un paysage magnifique, en fait. La première impression qu'on a en arrivant sur la ZAD, c'est de dire, mais si cette zone devenait totalement bétonnée, quel gâchis ça serait, quoi. Donc, ça, c'est très fort, en fait.
Avec une pointe de fantastique, justement, dans votre approche graphique de ce paysage, Thomas Azuelos. Quand je dis une pointe, c'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'au bout non plus.
C'est ce que j'appelle l'imaginaire de la ZAD. C'est un imaginaire qui est toujours, qui est une manière de transcender la réalité, et qui est d'en faire quelque chose de plus grand que nous. C'est d'où aussi le titre. C'est une manière de traduire que ce que les gens vivent là-bas a une portée et une importance, y compris en termes de merveilleux, au sens de l'espoir politique, mais aussi au sens d'un merveilleux qui enchanterait le quotidien. Il y a vraiment l'idée d'un réenchantement du quotidien dans une société qui a tendance à transformer les gens en chiffres, etc., etc. Mais vraiment de réenchanter le quotidien, et cette notion de réenchantement et de merveilleux, pour moi, est très importante.
Et puis, il y a cette idée de huis clos, parce que la ZAD, c'est plus grand que nous, c'est le titre de votre bande dessinée, c'est ce que quelqu'un vous dit, c'est un des personnages qui le dit, c'est plus grand que nous, et pourtant, ça reste quand même une prison. Ils sont encerclés, ces militants.
C'est vrai et c'est faux. Enfin, c'est faux dans le sens où, finalement, ils bougent énormément, c'est-à-dire qu'ils vont souvent d'une ZAD à une autre. Ils ont il y a beaucoup de gens qui viennent d'extérieur, d'Amérique du Sud, d'Allemagne, beaucoup d'Européens. Ils ont énormément de connexions, en fait. C'est plus une grande toile d'araignée qu'un lieu clos. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment insister là-dessus pour dire que le fait que ça soit pas du tout une zone fermée, quoi.
Oui, nous, on s'est vraiment concentré sur la zone et sur cet espace géographique et les interactions entre les personnes. Mais dans la réalité, c'est une zone qui est plus ouverte. On donne juste quelques petits aperçus de circulation de personnages, mais nous, on le traite de manière relativement secondaire. Dans la réalité, c'est d'abord une zone qui accueille beaucoup des gens de l'extérieur, des gens comme Simon et moi.
Ouais, ouais.
C'est peut-être plus difficile quand on est journaliste et qu'on arrive avec la casquette d'un journaliste sensationnaliste, parce qu'on va être reçu avec un peu de méfiance. Mais si on arrive comme auteur ou comme sympathisant ou comme ami, on est extrêmement bien accueilli. Il y a des zones d'accueil et de couchage pour les gens de l'extérieur. Il y a aussi beaucoup de relations avec le monde extérieur, avec les autres zones de lutte, comme disait Simon, avec les autres ZAD, et y compris avec les résistances syndicales. Par exemple, ils amènent des cagettes pour entretenir la lutte syndicale, voilà, sur Nantes et ailleurs.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Thomas Azuelos et Simon Rochepot, auteur de La ZAD, c'est plus grand que nous, édité chez Futuropolis. Parlons maintenant des personnages qui sont dans cette bande dessinée. Alors, le mot que l'on puisse dire, c'est que chacun vient avec son propre rêve, hein. C'est-à-dire, c'est la multiplicité des personnages renvoie aussi au nombre de visions, et aussi c'est ça qui fait que cette bande dessinée n'est pas seulement sympathisante avec le mouvement, c'est que des fois ces points de vue ne convergent pas.
C'était toute la difficulté en fait de faire la bande dessinée, parce qu'au départ moi vraiment j'étais parti sur un personnage qui nous donnerait qui serait le fil conducteur du livre et finalement qui aurait un seul regard. Et puis quand on a eu des discussions ensuite avec Thomas, quand il a passé du temps sur la ZAD, il a vraiment approfondi les personnages qui étaient d'abord secondaires pour leur donner vraiment une consistance dans le livre.
En fait, je me suis dit que l'enjeu de faire une bande dessinée sur la ZAD, c'était aussi narrativement de faire vivre plusieurs personnages au premier plan et de faire un récit polyphonique, si on peut dire, et qu'il fallait sortir du parcours d'un seul personnage qui traverserait l'histoire de la ZAD. Ça a été une discussion entre autres avec quelques amis de la ZAD qui disaient ce serait peut-être dommage de rester sur vraiment des individualités trop restreintes. Et du coup, moi, je l'ai traduit dans mes termes à moi de bande dessinée. Et je me suis dit que narrativement, il y avait un vrai enjeu à construire un récit collectif. Mmh. Et aussi pour montrer, parce que ça fait partie du frottement et de tout l'intérêt pour moi de la ZAD, c'est les moments où la ZAD sait être très inclusive, c'est-à-dire accueillir tout le monde, et les moments où cette qualité peut devenir une difficulté dans les moments de tension, parce que des fois les enjeux de chaque personne, chaque personnage, sont tellement différents que dans les moments de crise, c'est difficile de les faire converger et de se bagarrer dans le même sens. Ça s'est reproduit au moment des expulsions en 2018. Il y avait à nouveau des tensions qui sont ressorties.
Entre qui et qui, généralement ?
C'est difficile à dire, j'aurais peur de trop caricaturer, mais disons entre les gens qui sont prêts d'une certaine manière à faire évoluer la lutte, y compris avec certains compromis, par exemple sur la question agricole, sur le fait de mettre son nom en haut d'un papier, et des gens qui seront qui entre guillemets ne lâcheront rien, c'est-à-dire qui ont décidé que de toute façon on ne signera jamais aucun papier avec l'État.
Qui sont dans la radicalité, on peut le dire.
Dans la radicalité. Oui. Alors après, la radicalité, c'est une notion qui est un peu difficile à établir. On est toujours plus radicaux que quelqu'un d'autre et moins radical que quelqu'un d'autre et plus radical que quelqu'un d'autre. C'est toujours difficile de dire. Et puis il y a des moments où la lutte ne peut pas avancer si on n'est pas prêt à certains compromis, où la lutte s'enferme et s'enterre.
Oui, Simon Rochepot, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, c'est vrai qu'on va rapidement tomber dans la caricature, mais entre eux, certains se traitent de bourgeois, bon, pour les gens qui sont dans l'installation, qui sont dans un projet sur du long terme, et les arrachés qui se retrouvent là parce qu'on les a exclus de la société ailleurs et qui trouvent aussi ici un intérêt à la lutte. Et en fait, tous ces gens-là quand même sont unis au moment où ils ont un ennemi commun, quoi. Et ils sont ensemble et ils font très attention. Ils font très attention les uns aux autres, en fait. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à exacerber ce qui se passe sur Azad, mais c'est au bout de longues heures de discussion qu'on en arrive aux mains quand même. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dialogue permanent, quoi.
Et puis enfin, pour parler des doutes, des moments de doute qui traversent certains personnages de la ZAD, c'est plus grand que nous, ce sont des doutes que vous avez pu vivre vous-même. Est-ce que vous vous êtes posé des questions en disant, est-ce que cette radicalité, ce combat, cet assemblage de plusieurs envies pas toujours compatibles les unes aux autres, est-ce que tout ça a aussi traversé votre vécu quand vous étiez dans la ZAD de Notre-Dame ?
beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'y va pas sans se poser des questions et on essaye de... Bon, enfin, on ne trouve pas forcément les réponses à nos questions, mais moi, le fait de vivre en communauté, en fait, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. J'ai déjà du mal à vivre en famille, donc j'essayais de savoir comment des gens du même âge pouvaient vivre entre eux, quasiment 24 heures sur 24. Voilà, c'était des... Ouais. Et bon, il faut savoir qu'ils ont chacun aussi des espaces un peu plus privés où ils peuvent s'isoler, mais chacun des zadistes traverse sa crise forcément, quoi.
Et Thomas Azulas ?
Moi, je ne sais pas si je vais parler directement de mes doutes. En tout cas, ce qui m'a le plus marqué, peut-être, c'est de découvrir comment se construit, comment s'élabore un mouvement aussi important quand même, parce qu'on parle au moins, disons, de 250 personnes de manière un peu stable. Un mouvement anti-autoritaire, de quelle manière ce mouvement peut avoir du mal parfois à faire sa propre, je vais utiliser des gros mots, mais sa propre police et sa propre justice. La difficulté justement pour un mouvement qui a refusé une forme d'autorité à réendosser, à réassumer une forme d'autorité dans certains moments de crise. Et le fait que la volonté d'être très inclusif et d'accepter tout le monde aussi sur le principe de faire tous ensemble, d'agir tous ensemble, de construire un bien commun tous ensemble, peut être mis en difficulté quand certains individus peuvent devenir peuvent avoir des intérêts contraires aux intérêts collectifs et deviennent entre guillemets nocifs à l'ensemble d'un mouvement. Et la difficulté peut avoir ce mouvement à gérer des situations difficiles comme ça. Mais disons que j'ai trouvé très enthousiasmant et très touchant. J'ai trouvé ça très touchant, la manière dont un mouvement comme ça réussissait à dépasser ces contradictions qui, moi, a priori, m'auraient paru un peu insolubles. Mmh. Et en réalité, il y a une telle force, telle volonté de vivre ensemble et de dépasser ces différences-là et de faire coûte que coûte ensemble que j'ai trouvé ça vraiment admirable, la patience des habitants de la ZAD à en permanence discuter et rediscuter et aller voir un tel pour rediscuter le coup avec lui et... Enfin, vraiment, il y a une endurance qui est très, très impressionnante.
Et une vie en société possible dans la ZAD de Notre-Dame, où c'était un terrain de lutte symbolique et qui a attiré du monde de partout, où ce sont des gens qui réellement ont cette envie ou cette utopie de vivre ensemble sur cette terre-là.
Moi, j'ai trouvé que c'est des gens qui vivaient réellement et très intensément le quotidien et ce qui est le plus...
Mais le temps d'un combat ou le temps d'une vie ?
Non, le temps, en tout cas, moi, je le vois sur l'échelle de quelques années parce que les gens que j'ai rencontrés, ils vivent pour certains depuis 2012-2013, depuis la période qu'on raconte dans la BD. Ils vivent très intensément le quotidien et ce qui est très impressionnant, c'est la manière dont la question politique... Et la question quotidienne, et ces deux questions sont complètement entremêlées. C'est-à-dire que les simples relations de voisinage sont déjà en soi des questions politiques. Et que finalement, tout devient politique. Les actes et les paroles sont politiques au quotidien. Et dans le simple fait de se frotter à des gens différents... C'est déjà...
Mais attention, Thomas Azulas, vous ne me donnez pas du tout envie d'aller là-bas. Si à chaque fois, pour prendre mon café, pour dire bonjour aux voisins, je dois passer par la politique...
Après, bien sûr, dans notre BD, on donne aussi un concentré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va... Et puis on se concentre sur une période qui a été particulièrement intense, qui est le moment où les gendarmes s'en vont en 2013, donc où les choses s'établissent, où la vie s'organise. Donc évidemment qu'il y a une espèce d'accélération à ce moment-là et de difficultés et de frottements qui après va s'apaiser totalement pendant de très longues périodes. Mais moi, ces frottements, pour moi, les raconter n'étaient pas du tout montrer la vie horrible de la ZAD et mon Dieu, regardez comme c'est fatigant et comme c'est tendu de vivre à la ZAD. Au contraire, pour moi, j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de plus touchant et de plus beau, parce que c'est
des gens qui n'avez pas décidé de vous installer vous et votre famille là-bas pour autant.
Non, mais failli, non, mais je.
Il a failli.
Ah, il s'est posé des questions, je crois.
Je me suis pas posé la question pour aujourd'hui. Je dirais que c'est peut-être trop tard. Puis j'ai des enfants qui sont installés à Marseille et tout ça. Mais très sincèrement, moi, cet investissement-là au quotidien, non seulement je le comprends, mais il me touche beaucoup.
Comment on en sort de cette ZAD?
On y sort avec l'envie d'y retourner.
Et aujourd'hui, déjà, elle ressemble à quoi, la ZAD de Notre-Dame?
Aujourd'hui?
Maintenant que ce n'est plus l'actualité.
J'y suis retourné il n'y a pas longtemps. En fait, il y a quelque chose de très apaisé, évidemment. Enfin, apaisé dans le sens où maintenant, ils vont pouvoir vraiment penser à leur installation sur du long terme, quoi. Donc, il y a toujours, évidemment, des frictions, etc. Donc,
je dirais même que les problèmes commencent aujourd'hui, non?
Qui peut répondre à la question?
Moi, je m'avancerai pas trop parce que les cartes sont tellement en train d'être redistribuées que c'est vraiment très difficile de. En tout cas, la pression de l'État, la pression de la préfecture est très forte. Donc, c'est difficile quand même. Mais c'est un moment où la lutte doit se transformer pour évoluer. Obligatoirement, elle doit se transformer.
C'est le moment de rappeler le titre de la bande dessinée La ZAD, c'est plus grand que nous. C'est sorti chez Futuropolis cette semaine. Merci Thomas Azulas et Simon Rochepot d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci.